Chapitre 10. Confrontation. Et Jack s'avança vers l'autre et se campa devant lui en se balançant d'avant en arrière dans une posture avantageuse. « Oh oh ! » fit-il en levant le sac de cailloux rouges qu'il avait ramassé. « Comme ça, tout ce qu'il y a sur la plage est à toi. Eh bien, moi, je dis que tout ce que j'ai trouvé est à moi. » Et celui qui voudra me le reprendre devra me donner un bout de sa chair en échange. » Et Jack montra à l'autre toutes ses dents, des blanches du devant au noir du fond, et aussi son poing serré comme un nœud de bois. « Je vais te le coller sur la figure, » reprit-il, « et puis je vais t'arracher les oreilles. » Et il se serait certainement exécuté sur le champ, n'eût été que les autres, non pas plus d'oreilles qu'un crapaud, comme tous les enfants le savent. Mais l'autre comprit qu'il ne s'emparerait pas du sac de cailloux rouges sans se battre. Alors, tout soudain, il se mit à trembloter et à miroiter. Il perdit son odeur de poisson crevé et il émana de lui le parfum de toutes les fleurs qui s'épanouissent au plus fort de l'été. Il frissonna pour faire scintiller sa peau et devant Jack se tint tout à coup une jeune fille, nue comme une feuille nouvelle-née, qui se passait la langue sur les lèvres, comme si elles avaient goût de miel. 10 voyages de Jack. 4e voyage. Pendant quelque temps, je sombrais dans un sommeil que ne troubla aucun rêve, je pense. En tout cas, j'étais assez fatigué pour cela. J'avais vécu trop d'événements trop rapidement, et dormir me procurait non seulement le repos physique dont j'avais besoin, mais aussi un répit face aux pensées qui tournoyaient dans mon esprit. Toutefois, au bout d'un moment, les songes s'emparèrent de moi et me bousculèrent en tous sens. Je gravissais les marches de la tour de vérité. Il était assis à sa fenêtre, et il artisait. Mon cœur bondit de joie à sa vue, mais quand il se tourna vers moi, ses traits étaient empreints de chagrin. « Tu n'as rien enseigné à mon fils, Fitz. Je vais devoir prendre ta fille. » Ortiller et devoir étaient des cailloux sur un damier en tissu, et d'un seul geste de la main, il échangea leur position. « C'est à toi de jouer, » dit-il. Mais avant que j'eusse pu esquisser un mouvement, Gina s'empara de tous les cailloux du jeu. « Je vais en faire une amulette, » déclara-t-elle, « une amulette qui protégera les 6 duchés tout entiers. » « Cachez-la, » lui demandai-je d'un ton suppliant. Car j'étais le loup et le charme était destiné à repousser les prédateurs. Sa seule vue suffisait à me faire trembler et à me donner envie de vomir. Il était puissant, beaucoup plus puissant que tous ceux qu'elle m'avait montrés jusque-là. C'était de la magie réduite à son plus cru, dépouillée de tout sentiment humain, une magie de temps et de lieux anciens, une magie pour laquelle les gens ne comptaient pas, implacable comme l'art, tranchante comme l'acier et brûlante comme le poison. Cachez-la. Il ne m'entendait pas. Il ne m'avait jamais entendu. Le sans-odeur portait l'amulette à son cou, et il avait largement ouvert sa chemise pour la découvrir. Je devais me tenir à 4 pour rester immobile derrière lui et protéger ses arrières. Même dans son dos, je captais le violent rayonnement du charme. Je percevais l'odeur du sang, le sien et le mien. Je sentais le long de mon flanc le lent écoulement rouge qui emportait peu à peu mes forces. Un homme accompagné d'un chien gémissant nous gardait, l'air furieux. Derrière lui, un feu brûlait et des pies dormaient tout autour. Au fond apparaissait affreusement loin l'entrée de la grotte où l'aube commençait à éclaircir imperceptiblement le noir du ciel. Les traits de notre garde étaient déformés non seulement par la colère, mais aussi par la peur et l'impuissance. Il avait envie de nous faire mal, mais n'osait pas s'approcher. Ce n'était pas un rêve. C'était le vif. J'étais en compagnie d'œil de nuit et il était vivant. L'élan de joie qui me transporta ne l'amusa qu'un instant. Ta présence ne facilitera les choses ni pour toi ni pour moi. Tu aurais dû rester à l'écart.
Cache cette saleté,
gronda le garde.
Essayez de m'y obliger, pour voir,
rétorqua le sans-odeur. J'entendis la réponse enjouée du fou par les oreilles du loup, et j'y retrouvais son mordant et son ironie d'autrefois. Il s'amusait de sa propre attitude provocatrice. On lui avait pris son épée quand il s'était fait capturer avec le loup, mais il se tenait assis, le dos parfaitement droit, la gorge dégagée pour exposer l'amulette qui brûlait d'une magie glacée. Il s'était placé entre le loup et ceux qui voulaient le torturer. Œil de Nuit me montra une salle aux parois rocheuses et au sol de terre, une caverne peut-être. Le fou et lui se trouvaient dans un coin. Du sang avait ruisselé sur le côté du visage ambré du fou, puis il avait séché et s'était craquelé comme un émail de mauvaise qualité. Œil de Nuit et le fou avaient été faits prisonniers. On les avait traités sans ménagement, mais on leur avait laissé la vie sauve. Le fou, parce qu'il savait peut-être où et comment le prince avait disparu. Le loup, à cause de son lien avec moi. Ils ont réussi à découvrir que nous étions liés. Je crois que c'était évident, malheureusement. La Marguette sortit des ombres et s'approcha de nous d'une démarche à la fois raide et circonspecte. Ses moustaches s'agitèrent et son regard ardent se braqua sur Œil de Nuit. Quand le chien du garde se tourna vers elle, elle cracha et lui décocha un coup de griffe. Il fit un bond en arrière en poussant un glapissement et la mine de l'homme s'assombrit encore. Mais ils s'écartèrent, l'un et l'autre. Elle se mit à effectuer des allers et retours en claudiquant et en lançant au fou des coups d'œil obliques. Un grondement menaçant au fond de la gorge. Sa queue serpentait derrière elle. L'amulette la tient en respect.
Oui, mais pas pour longtemps, je pense.
La pensée suivante du loup me surprit.
C'est une créature pitoyable, complètement parasitée par la femme, comme un daim malade couvert de vermine. Elle erre de ci, de là, au gré d'une humaine qui voit par ses yeux. Elle ne se déplace même plus, comme un véritable marguet.
L'animal s'arrêta brusquement et entr'ouvrit la gueule, comme pour analyser notre odeur. Puis, elle se détourna et s'éloigna d'un pas décidé.
« Tu n'aurais pas dû venir. Elle a senti que tu es avec moi, et elle est allée chercher le grand homme. Lui est lié à un cheval, et l'amulette ne gêne pas les proies, ni ceux qui sont liés à elle. »
La pensée du loup vibrait de mépris pour les mangeurs d'herbe, mais il s'y cachait aussi une note d'angoisse. Je réfléchis. Le charme du fou protégeait des prédateurs. Il était logique qu'il laisse indifférent l'homme au cheval de bataille. Avant que je puisse étudier davantage la question, la Marguette revint, l'intéressée derrière elle. Elle s'assit à côté de lui, avec une suffisance exaspérante, et posa sur nous un regard qui n'avait rien de celui d'un félin. L'homme de haute taille négligea le fou et ses yeux se braquèrent derrière lui, sur le loup.
« Te voici enfin ?
Nous t'attendions, »
dit-il calmement. Œil de Nuit refusait de croiser son regard, mais il ne pouvait se boucher les oreilles, et les paroles me parvinrent.
« Je tiens tes amis, espèce de poltron et de traître.
Vas-tu les trahir comme tu as trahi ton lignage ?
Je sais que le prince est avec toi. J'ignore comment tu as fait pour disparaître et ça m'est égal. Je veux seulement te dire ceci. Ramène-le, ou ils mourront lentement. »
Le fou se dressa entre l'homme et mon loup, et je compris qu'il s'adressait à moi en déclarant
« Ne l'écoute pas. Reste loin d'ici. Garde-le en sécurité. »
Je ne voyais que son dos, mais l'ombre de l'homme s'agrandit soudain.
« Votre amulette de sorcière déhée n'a pas d'effet sur moi, seigneur doré. »
Le fou partit en vol plané et heurta mon vieux loup déjà mal en point. Le lien de vif se rompit entre nous.
Je m'éveillai en sursaut. Je me levai d'un bond, mais je ne vis que la grisaille de l'aube et la plage déserte, et je n'entendis que les cris des oiseaux marins qui tournoyaient dans le ciel.
Je m'étais roulé en boule dans mon sommeil pour conserver ma chaleur, mais ce n'était pas le froid qui me faisait trembler à présent. J'étais couvert de sueur et je haletais, toute envie de dormir disparue. Je regardais la mer sans la voir, les yeux pleins des images de mon rêve. La réalité de ce dont j'avais été témoin ne faisait aucun doute. Je pris une longue inspiration saccadée. La marée montait à nouveau, mais n'avait pas encore atteint son plus haut niveau, et je cherchais une indication de la présence du pilier d'art, sans succès. J'allais devoir attendre l'après-midi, quand la mer serait au plus bas. Je n'osais pas imaginer ce qui allait arriver au fou et à Œil de Nuit entre-temps. Si la chance me souriait, le recul des vagues découvrirait le pilier et je retournerais auprès d'eux. Le prince devrait se débrouiller seul en attendant que je revienne le chercher. Mais si la marée descendante ne révélait pas la colonne de pierre, non, je ne voulais pas songer aux implications. Je préférais me pencher sur des problèmes que je pouvais résoudre sur l'instant. Trouver de quoi manger, conserver mes forces et rompre l'emprise de la femme sur le prince. Je me tournai vers le garçon toujours endormi et le poussai fermement du bout du pied.
« Debout !»
fis-je d'une voix hargneuse. Le tirer de son assoupissement ne briserait pas obligatoirement son lien avec sa Marguette, je le savais, mais il aurait plus de mal à se concentrer exclusivement sur lui. Quand j'étais adolescent, j'avais passé mes heures de sommeil à rêver, que je chassais avec Œil de Nuit. Et une fois réveillé, même si je restais conscient du loup, c'était d'une façon plus diffuse. De voir grogna et s'écarta de moi en s'accrochant avec opiniâtreté à ses rêves de vif. Je le saisis au col et le relevai sans douceur. « Réveillez-vous !»«
Fichez-moi la paix, sale bâtard !»
s'exclama-t-il d'une voix rauque. À la façon d'un chat, il me regarda d'un air furieux. La tête légèrement détournée, la bouche entr'ouverte. On eût dit qu'il allait feuler et me décocher un coup de griffe. La rage m'envahit soudain. Je l'agrippai par le devant de sa chemise, le secouai violemment, puis le rejetai loin de moi. Il perdit l'équilibre et manqua de peu de tomber dans les braises du feu.
« Ne m'appelez pas comme ça !» grondai-je. « Ne vous avisez plus jamais de m'appeler comme ça !»
Assis par terre, il me regarda d'un air ahuri. Personne n'avait jamais dû s'adresser ainsi à lui, et encore moins le rudoyer. Honteux d'avoir été le premier, je lui tournai le dos et lançai par-dessus mon épaule.
« Rallumez le feu ! Je vais voir si la marée nous a laissé de quoi nous restaurer, avant qu'elle ne remonte !»
Et je m'éloignai à grandes enjambées, sans un coup d'œil en arrière. Au bout de trois pas, je regrettais de n'avoir pas pris mes bottes, mais je refusais de faire demi-tour. Je ne tenais pas à me trouver face au prince. Ma rancœur contre lui était encore trop fraîche, ma fureur impuissante contre les pies trop forte. La mer n'avait pas encore atteint le sable de la grève. Pieds nus sur les rochers noirs, j'avançais avec précaution en tâchant d'éviter les bernacles et ramassais des moules ainsi que des algues pour les cuire à l'étuvée. Je découvris, coincé sous un affleurement de pierre, un gros crabe vert qui tenta de se défendre en me pinçant l'index. Le doigt meurtri, je m'emparai néanmoins de la créature et la fourrai dans ma chemise en compagnie des moules. Ma quête de nourriture m'entraîna sur la plage, et la fraîcheur de l'air, associée à la simplicité de ma tâche, apaisa ma colère contre le prince. Il n'était qu'un instrument entre les mains de personnages qui savaient très bien, eux, ce qu'ils faisaient. Les agissements ignobles de la femme démontraient que les conspirateurs n'obéissaient à aucune morale. Il ne fallait pas en vouloir au petit. Il était jeune, mais ni stupide, ni mauvais. Enfin, jeune et stupide peut-être, mais après tout, n'étais-je pas passé par là, moi aussi. Je revenais au camp quand je découvris la quatrième plume, et en me baissant pour la ramasser, je vis la cinquième scintiller au soleil, à une dizaine de pas de là. Elle semblait étincelée, de couleur extraordinaire, presque éblouissante, et pourtant, quand je m'en approchais, je songeais que j'avais dû être le jouet d'une illusion, car elle était d'un gris aussi terne que ses sœurs. Le prince avait quitté le bivouac lorsque j'y parvins, mais il avait alimenté le feu avant de s'en aller. J'ajoutai les deux nouvelles plumes aux trois premières, puis je cherchai le garçon des yeux et le vis qui revenait. Il s'était manifestement rendu au ruisseau car son visage était humide et ses cheveux mouillés et rabattus en arrière. Arrivé au feu, il resta un moment debout à m'observer, tandis que je tuais le crabe, puis l'enveloppait en compagnie des moules dans les frondes plates des algues. À l'aide d'un bâton, j'écartai quelques brandons, puis déposai avec précaution sur les braises notre repas qui se mit à siffler et à crachoter. Devoir attendit que j'eusse rassemblé d'autres braises autour du paquet d'algues pour déclarer d'un ton dégagé, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps, « J'ai un message pour vous. Si vous ne me ramenez pas avant le coucher du soleil, ils les tueront tous les deux, l'homme et le loup. Rien dans mon attitude ne révéla que je l'eusse entendu. Je ne quittais pas le crabe des yeux et continuais à entasser de la cendre chaude autour de lui. Quand je répondis, ce fut d'un ton aussi détaché que le sien. S'il ne relâche pas l'homme et le loup avant midi, c'est peut-être moi qui vous tuerai. Et je levai un regard assassin vers lui. Il recula d'un pas.
Mais je suis le prince ?
S'exclama-t-il. L'instant d'après, je lus sur ses traits le mépris que lui inspiraient ses propres paroles. Mais il était trop tard pour les rattraper, et elles demeurèrent suspendues en l'air, entre nous, frémissantes. « Cela n'aurait d'importance que si vous vous conduisiez en prince, » rétorquai-je avec rudesse. « Mais ce n'est pas le cas. On se sert de vous, et vous ne vous en rendez même pas compte. Pire encore, on se sert de vous non seulement contre votre mère, mais aussi contre le royaume des six duchés tout entier. » Je détournai les yeux et poursuivis, car il le fallait. Vous ne vous rendez même pas compte que la femme que vous adorez n'existe pas, du moins en tant que femme. Elle est morte, prince de Voir. Mais à sa mort, au lieu d'accepter de disparaître, elle s'est introduite de force dans l'esprit de sa Marguette, et elle la possède désormais. C'est un des actes les plus vils que puisse commettre un membre du lignage. Elle s'est servie de la Marguette pour vous attirer dans son esprit, et elle vous a enjôlé avec des mots d'amour. J'ignore quel but elle poursuit, mais il n'est bon ni pour vous, ni pour elle, et il va coûter la vie à mes amis. J'aurais dû me douter qu'elle serait avec lui, et qu'elle ne lui permettrait pas d'entendre ce que je venais de lui dire. Juste avant de se ruer sur moi, il émit un feulement de félin qui m'avertit. Et je me penchai de côté alors qu'il bondissait. Je pivotai sur son passage, le saisis par le dos de sa chemise et le ramenai brutalement à moi. Comme je le bloquais entre mes bras, il rejeta la tête en arrière pour me frapper le visage, mais il n'atteignit que le côté de ma mâchoire. Je connaissais ce truc de longue date, car c'était un de mes préférés. Notre lutte, si l'on peut employer ce terme, ne dura pas. Dégingandé, De Voir en était encore au stade de la croissance où le développement de la musculature n'a pas rattrapé celui de la charpente, et il se battait avec la frénésie aveugle de la jeunesse. Pour ma part, il y avait longtemps que j'étais à l'aise dans ma peau d'adulte, et j'avais l'avantage du poids et des années d'expérience. Les bras emprisonnés dans mon étreinte, il ne pouvait guère qu'agiter la tête en tous sens et ruer dans mes tibias. Je songeais soudain que nul n'avait jamais dû porter ainsi la main sur lui. Naturellement. Un prince s'entraînait à combattre à l'épée, pas avec les poings. En outre, il n'avait jamais connu les jeux brutaux qu'on partage avec un père ou des frères. Il ignorait comment réagir dans une telle situation. Il essaya de me repousser, à l'aide du vif, mais comme Burick l'avait fait avec moi bien des années plus tôt, je lui renvoyais son impulsion mentale. Il resta un instant pris de court, puis il se débattit avec une violence renouvelée. Je sentais la fureur qui le possédait, et j'avais l'impression de me combattre moi-même. Je savais qu'il ne reculerait devant rien pour me faire mal, et que seule son inexpérience limitait sa férocité déchaînée. Il tenta de nous jeter tous les deux au sol, mais je me tenais trop bien campé sur mes jambes, et ses efforts pour m'échapper en se tortillant comme un ver coupé n'aboutirent qu'à me faire resserrer mon étreinte. Il avait le visage écarlate quand sa tête tomba enfin en avant. Il resta un moment avachi entre mes bras, la respiration haletante, avant de déclarer d'un ton maussade. « Ça suffit, vous avez gagné. » Je le lâchai, pensant qu'il allait s'effondrer. Mais non, il se retourna d'un bloc, mon poignard à la main, et me le plongea dans le ventre. C'était du moins son intention. Heureusement, la boucle de ma ceinture d'épée dévia le cou, la pointe de la lame courut sur le cuir, puis s'empêtra dans le tissu de ma chemise. Voir l'arme, si près de ma chair, réveilla ma colère. Je saisis son poignet, le rabattis brutalement en arrière, et le poignard s'envola. Je lui assénai ensuite sur la nuque un coup de poing qui le jeta à genoux. Le hurlement de fureur qu'il poussa me fit dresser les cheveux sur la tête, et dans le regard haineux qu'il leva vers moi, je ne vis pas le prince, mais un monstrueux mélange d'une Marguette, d'un garçon, et d'une femme qui voulait les dominer tous les deux. Et c'est par sa seule volonté qu'il se redressa brusquement et se jeta de nouveau sur moi. Je m'efforçais d'encaisser le choc et de maîtriser le garçon, mais il se battait comme une bête enragée, crachant, griffant l'air de ses ongles et m'arrachant les cheveux. Je lui donnai un violent coup de poing dans la poitrine qui aurait dû au moins le ralentir, mais ne fit que décupler sa rage. Je compris alors que la femme le possédait totalement et qu'elle ne se souciait pas de la souffrance que je pouvais lui infliger. J'allais devoir le blesser pour l'arrêter. Pourtant, malgré mon emportement, je ne pus m'y résoudre. Je me ruai à sa rencontre, le pris dans mes bras et me servis de mon poids pour le terrasser. Nous tombâmes trop près du feu à mon goût, mais je me trouvais sur le garçon et je résolus d'y rester. Nos visages se touchaient presque, tandis que j'assurais ma prise sur lui. Sa tête roula follement d'un côté et de l'autre, et puis il tenta de me frapper au front. Le regard qui me défiait n'était pas celui du prince. La femme cracha et m'injuria. Je soulevai le garçon par le devant de sa chemise, puis le plaquai brutalement au sol, et son crâne heurta durement le sable compact. Le choc aurait dû l'assommer à demi, mais il releva aussitôt la tête, les dents découvertes comme pour me mordre. Je sentis jaillir en moi une colère dont l'origine était si profonde qu'elle se situait en dehors de moi.
« Devoir !» tonnai-je. « Ne me résistez pas !»
Son corps soudain devint flasque. La femme Marguette m'adressa un regard rageur qui s'effaça peu à peu des yeux du garçon, et le prince Devoir me dévisagea d'un air terrifié. Mais cette expression aussi disparut, et son regard devint fixe comme celui d'un cadavre. Du sang soulignait le pourtour de ses dents. C'était le sien qui coulait de son nez dans sa bouche. Allongé par terre, il ne bougeait plus. J'avais envie de vomir. Je desserrai lentement mes doigts de sa chemise et me relevai en haletant.
« Eda et elle, ayez pitié de moi, » dis-je.
Il m'arrivait rarement de prier, mais les dieux n'avaient pas envie de réparer ma faute. Je savais ce que j'avais fait. J'avais déjà commis cet acte de sang-froid, en toute conscience. Je m'étais servi de l'art pour implanter de force dans l'esprit de mon oncle, le prince royal, une fidélité absolue à la reine Kétriken et à l'enfant qu'elle portait. J'avais voulu cette empreinte indélébile et j'avais réussi, bien que la mort prématurée de Royal, quelques mois plus tard, m'eût empêché d'étudier combien de temps un ordre ainsi imposé restait effectif. Cette fois-ci, j'avais agi sous le coup de la colère, sans me préoccuper des conséquences. Le commandement furieux que j'avais donné à Devoir s'était gravé dans son esprit avec tout le poids de mon art. Il n'avait pas décidé de son propre chef de cesser de me résister, et une part de lui-même souhaitait sans doute toujours me tuer. Son expression hébétée indiquait qu'il n'avait aucune idée de ce que je lui avais infligé. Moi non plus, d'ailleurs, à vrai dire. « Pouvez-vous vous lever ? » demandai-je d'un ton circonspect. « Puis-je me lever ?» Sa façon de répéter ma question me donna la chair de poule. Il s'exprimait d'une voix pâteuse et il jetait des regards affolés autour de lui, comme s'il cherchait une réponse en lui-même. Enfin, ses yeux revinrent sur moi. « Vous pouvez vous lever, » dis-je, l'angoisse au cœur. Et il obéit. Il se redressa en chancelant, comme à demi assommé. La puissance de mon ordre d'art avait apparemment rompu l'emprise de la femme sur lui. Mais je ne considérais pas comme une victoire d'avoir remplacé sa volonté par la mienne. Il resta immobile, les épaules légèrement voûtées, comme s'il examinait prudemment quelque douleur en lui-même. Puis, au bout d'un moment, il me regarda. « Je vous hais, » dit-il d'une voix dénuée de rancœur. « C'est compréhensible, » répondis-je. Ces mots m'étaient venus spontanément. Je partageais parfois ce sentiment. Incapable de soutenir son regard, je ramassai mon poignard et le rengainai. Le prince contourna le feu d'un pas mal assuré pour s'asseoir le plus loin possible de moi. Je l'observai subrepticement. Il s'essuya les lèvres et regarda sa paume maculée de sang. Puis, la bouche entr'ouverte, il passa sa langue sur ses dents. Je redoutais qu'il n'en crachât une, mais ma crainte était vaine. Il ne se plaignait pas. Il avait plutôt l'air de quelqu'un qui essaye sans succès d'évoquer un souvenir oublié. Humilié, les idées embrouillées, il contemplait fixement le feu, et je me demandais à quoi il songeait. Je restais assis quelque temps à passer en revue les nouvelles petites douleurs qu'il m'avait infligées. Beaucoup d'entre elles n'étaient pas physiques, et, à mon avis, aucune n'égalait ce que je lui avais fait subir. Je ne voyais pas quoi lui dire. Aussi, m'occupais-je à retourner le crabe dans les braises à l'aide d'un bâton. Les algues dont je l'avais enveloppé s'étaient desséchées et racornies à la chaleur, et elles commençaient à brûler. Je retirai l'ensemble du feu et l'ouvris. Les moules bâillaient, et, de translucide, la chair du crabe est devenue blanche. La cuisson était suffisante, ou peu s'en fallait. « Le repas est prêt, » annonçai-je. « Je n'ai pas faim, » répondit le prince, la voix et le regard distant. « Mangez quand même tant que vous avez quelque chose à vous mettre sous la dent. » Sans le vouloir, j'avais pris un ton autoritaire et brusque. Réagit-il à mon empreinte d'art ou bien au simple bon sens? Je l'ignore, mais lorsque je me fus servi, il fit le tour du feu d'un pas circonspect pour venir prendre sa part. Par certains côtés, il me rappelait Œil de Nuit la première fois qu'il était venu à moi. C'était un jeune loup méfiant, mais qui avait assez de jugeote pour se rendre compte qu'il devait s'en remettre à moi pour subvenir à ses besoins. Peut-être le prince savait-il que, sans moi, tout espoir de regagner Serre sans d'insurmontables difficultés était vain. À moins que je n'eusse implanté mon ordre d'art si profondément qu'il devait obéir à la moindre de mes injonctions. Le silence dura le temps que nous nous restaurions, et, encore un peu après, je décidai de le rompre. J'ai observé les étoiles hier soir. Il hocha la tête, puis il répondit au bout d'un moment d'un ton maussade. « Nous sommes loin de chez nous. C'est peut-être un long voyage qui nous attend, et nous sommes fort dépourvus. Savez-vous vous débrouiller pour survivre en pays inconnu ?» À nouveau, le silence. Il n'avait aucune envie de me parler, mais je détenais des renseignements dont il avait absolument besoin. Et c'est à contre-cœur qu'il demanda « Comment sommes-nous arrivés ici ? Ne pouvons-nous pas repartir par le même moyen ?» Un pli vertical barra son front. « Comment avez-vous appris à pratiquer cette magie ? S'agit-il de l'art ?» Je lui livrai une parcelle de ce que je savais. C'est le roi Vérité qui m'a enseigné l'art il y a longtemps. Puis, avant qu'il pût formuler une autre question, je poursuivis. Je vais escalader cette falaise là-bas, au bout de la plage. Nous ne sommes peut-être pas loin d'un village. S'il me fallait retraverser le pilier en laissant le garçon sur place, je devais me débrouiller pour lui trouver un abri sûr. Et si la colonne d'art n'apparaissait pas à marée basse, je voulais me tenir prêt à un long trajet à pied. Ma volonté était inébranlable sur ce point. Je retournerai en Serre, à plat ventre s'il le fallait, et une fois là, je traquerai tous les pis et les tuerai à petit feu. Ce serment au cœur, je me sentis plein d'une détermination nouvelle, et j'enfilai mes chaussettes et mes bottes. Je glissai discrètement les plumes dans ma manche, en me promettant de leur trouver une meilleure cachette. Je n'avais aucune envie de parler de ces objets avec le prince. Sans un mot, il me suivit quand je me levais et m'éloignais du feu. Je m'arrêtai au bord du ruisseau pour me laver les mains et le visage et me désaltérer. Le prince m'observa et, quand j'eus fini, il se déplaça en amont pour boire à son tour. Je profitai de ce qu'il était occupé pour déchirer une lanière de ma chemise et attacher les plumes à mon avant-bras. Et ma manche les cachait de nouveau quand il acheva de nettoyer le sang qui maculait son visage. Nous reprîmes notre route. Le silence était comme une masse pesante que nous portions ensemble. Je sentais qu'il ruminait ce que je lui avais dit sur la femme, et j'avais envie de le sermonner, de lui enfoncer dans le crâne ce que je savais, jusqu'à ce qu'il eût compris le but qu'elle poursuivait. J'aurais voulu aussi lui demander si elle se trouvait encore dans son esprit, mais je mordis ma langue et me tus. Il n'était pas stupide. Je lui avais dit la vérité, à lui de décider ce qu'il devait en faire. Nous poursuivîmes notre chemin. À mon grand soulagement, nous ne découvrîmes pas d'autres plumes dans le sable. Nous ne trouvâmes d'ailleurs rien de très utile, bien que la plage fût couverte d'une quantité étonnante d'objets rejetés par la mer. morceaux de cordage pourrissant, fragments vermoulus de membres de navires, vestiges d'une moque gisant non loin d'un tollé. La falaise noire grandissait à mesure que nous avancions, et elle nous écrasait de toute sa hauteur, avant même que nous ne parvenions à son pied. Du sommet, on devait jouir d'un excellent point de vue sur les environs. Comme nous approchions de la base, je remarquai qu'elle était grêlée de trous. Dans une falaise de grès, j'aurais pensé qu'il s'agissait de nids d'hirondelles, mais certainement pas dans cette pierre noire. Les cavités paraissaient trop régulières et séparées par des intervalles trop égaux pour être le résultat du travail de force naturelle. Le soleil qui les éclairait semblait éveiller des scintillements dans certaines d'entre elles, soulevant ma curiosité. La réalité dépassait en étrangeté tout ce que j'aurais pu imaginer. Quand nous atteignîmes le bas de la pique, nous nous rendîmes compte que nous avions affaire à des niches de différentes tailles, dont beaucoup contenaient un objet. Muet d'étonnement, le prince et moi longeâmes la muraille de pierre en examinant les plus basses rangées d'alcôves. La diversité de leur contenu m'évoqua le trésor d'un roi frappé de démence. L'une renfermait un hanap incrusté de pierres précieuses, la suivante, une tasse en porcelaine d'une finesse à couper le souffle. Dans un grand renfoncement, je vis une sorte de casque en bois apparemment conçu pour un cheval, à ceci près que les yeux des chevaux se trouvent sur les côtés de la tête et non sur le devant. Une résille en fine chaînette d'or ponctuée de minuscules pierres bleues drapait une pierre à peu près de la taille d'une tête de femme. Un petit coffret en bois luisant décoré d'un motif floral, une lampe sculptée dans une roche verte à l'aspect satiné, une feuille de métal couverte de caractères étranges, une délicate fleur de pierre dans un vase. C'était une extraordinaire accumulation d'objets précieux. J'étais plongé dans la plus complète stupéfaction. Qui donc pouvait bien exposer de tels trésors au flanc d'une falaise loin de tout, battue par le vent et les vagues? Chacun brillait comme un diamant qu'on nettoie chaque jour. Nulle ternissure n'altérait l'éclat du métal, nul dépôt de sel ne maculait le bois. À qui tous ces objets appartenaient? Comment et pourquoi étaient-ils arrivés là? Je jetai un coup d'œil à la plage par-dessus mon épaule, mais je ne décelai aucun signe d'une présence autre que la nôtre. Toutes ces merveilles restaient donc sans protection? Saisi d'une tentation irrésistible, je tendis l'index pour toucher la fleur de pierre. Mais je sentis une résistance, comme si l'ouverture de l'alcôve était bouchée par une vitre molle. Avec une curiosité puérile, j'essayais d'enfoncer de la paume la surface souple, mais plus j'appuyais, plus la barrière invisible devenait solide. Je réussis pourtant à frôler la fleur du doigt. Ses pétales bougèrent en émettant un son de carillon délicat et à peine audible. Toutefois, il aurait fallu plus de force que je n'en avais pour enfoncer assez la main afin de s'emparer de la fleur. Je ramenai la mienne en arrière, et alors qu'elle ressortait de la niche, je sentis un picotement désagréable parcourir mes doigts, comme lorsqu'on effleure une ortie, mais en moins durable. Le prince ne m'avait pas quitté des yeux. « Voleur, » dit-il calmement. J'eus le sentiment d'être un gamin pris en faute. Je n'avais pas l'intention de la prendre. Je voulais seulement la toucher. « Évidemment, » fit-il d'un ton ironique. « Croyez ce qui vous plaît, » répondis-je. Je me détournai des trésors pour observer la falaise. Je me rendis compte alors qu'un des alignements verticaux de trous, que j'avais pris tout d'abord pour une série d'alcôves parmi d'autres, constituait en réalité une sorte d'échelle. Sans un mot à devoir, je m'en approchai. Elle avait été taillée pour un homme plus grand que moi, mais je parviendrais sans doute à la gravir. Le prince me regardait avec curiosité, mais je ne jugeais pas nécessaire de lui fournir d'explications et entamai mon ascension. À chaque prise, je devais étirer le bras, puis lever inconfortablement la jambe pour atteindre la suivante. Pourtant, c'est seulement au tiers de la hauteur de la falaise que je me rendis compte de l'effort qu'allait représenter l'escalade jusqu'au sommet. Les meurtrissures et les griffures que m'avait infligées le prince m'élançaient sourdement, et si j'avais été seul, j'aurais probablement rebroussé chemin. Je continuai à monter, malgré les cris stridents de protestation que ma vieille blessure dans le dos se mit à pousser chaque fois que je tendais la main vers une prise. Quand je parvins au sommet, ma chemise collait à ma peau, trempée de sueur. Je me hissai par-dessus le bord de la pique et restai allongé à plat ventre le temps de reprendre mon souffle. À cette altitude, le vent était plus frais et soufflait plus régulièrement. Je me redressai lentement et parcourus les environs du regard. De l'eau, beaucoup d'eau. De part et d'autre du point où je me tenais, la terre s'achevait par des versants abrupts qui plongeaient dans la mer. Il n'y avait aucune plage en dehors de celle où nous étions arrivés. En me retournant, je vis une forêt et une autre derrière le plateau bas auquel s'adossait notre grève. Nous nous trouvions sur une île ou une presqu'île. Je n'aperçus aucun signe de présence humaine, ni bateau sur la mer, ni même une volute de fumée. Si nous étions obligés de quitter notre plage à pied, il nous faudrait traverser les bois, et j'éprouvais une inquiétude sourde à cette perspective. Au bout d'un moment, j'entendis un faible son. Je m'approchai du bord de la falaise. Au pied, le prince de Voir me cria une question dont je ne captais que l'inflexion. Je lui répondis par un geste vague, agacé. S'il tenait tant à savoir ce que je voyais, il n'avait qu'à monter lui-même. Pour ma part, j'avais d'autres soucis. Les niches ne s'étaient pas creusées toutes seules, et les objets précieux qu'elles renfermaient n'y étaient pas arrivés par miracle. La logique exigeait que j'aperçoive quelques traces d'occupation humaine. Enfin, je distinguais ce qui pouvait être un sentier loin, au bout de notre plage. Apparemment, peu fréquenté, il traversait le plateau de Jonc en direction de la forêt. Ce n'était peut-être qu'une piste de gibier, mais je conservais son emplacement en mémoire au cas où nous en aurions besoin. Je m'intéressais ensuite à la marée qui descendait et cherchais des yeux un ouvrage de pierre. Rien n'était visible encore, mais une zone attira mon attention. À chaque creux de vague, il me semblait apercevoir plusieurs grandes pierres noires aux arêtes rectilignes. Elles se trouvaient encore sous une mince couche d'eau, et j'espérais qu'il ne s'agissait pas de quelque facétie de la nature. Je remarquai un tas de bois flotté sur la plage, dont une longue branche festonnée d'algues pointait vers les rochers en question, et je m'en servis comme repère. J'ignorais si les pierres taillées seraient complètement découvertes à marée basse, mais, quoi qu'il en fût, j'avais la ferme intention de les examiner du plus près possible. Finalement, je poussai un soupir, me couchai à plat ventre, laissai pendre mes jambes dans le vide et tâtonnai du bout du pied pour trouver la première prise. La descente fut presque plus ardue que la montée, car je devais chercher chaque anfractuosité à l'aveuglette. Quand j'arrivai en bas, j'avais les jambes faibles et tremblantes. Je sautai les deux derniers trous et faillis tomber à genoux en atterrissant sur le sable. « Eh bien, qu'avez-vous vu ?» demanda le prince d'un ton autoritaire. Je pris le temps de récupérer ma respiration. « De l'eau, des rochers et des arbres. Pas de village? Aucune route? Non. Qu'allons-nous faire alors ?» Il s'exprimait d'un ton de reproche, comme si tout était ma faute. Je savais ce que j'allais faire. J'allais retraverser le pilier d'art, et même s'il me fallait plonger pour le retrouver. Mais je répondis au prince. Elle entend tout ce que je vous dis, non? Il resta un moment interdit à me regarder fixement. Quand je repartis en sens inverse sur nos traces, il m'emboîta le pas sans se rendre compte de toute l'autorité qu'il venait de me céder. Il ne faisait pas chaud, mais marcher sur le sable exige plus d'efforts que se déplacer sur un sol dur. En outre, mon ascension m'avait fatigué et mes propres soucis occupaient mes pensées. Je ne fis donc rien pour lancer la conversation, et ce fut Devoir qui finit par rompre le silence. « Vous prétendez qu'elle est morte ?» dit-il brusquement d'un ton accusateur. « C'est impossible. Si elle était morte, comment pourrait-elle me parler ?» Je m'apprêtais à répondre, me ravisais, puis déclarait. Quand on a le vif, on se lie à un animal, et on ne partage pas seulement ses pensées, mais aussi son être. Au bout d'un certain temps, on arrive à voir par ses yeux, à ressentir la vie comme lui, à percevoir le monde comme lui. Ce n'est pas simplement « Je sais tout cela, je suis impie, ne l'oubliez pas !» Et il eut un grognement de mépris. Jamais, je crois, Me faire couper la parole ne m'avait à ce point exaspéré.
« Vous êtes du lignage !»
rétorquai-je d'un ton cassant.
« Répétez encore une fois que vous faites partie des pies, et je serai obligé de vous rosser jusqu'à ce que vous vous débarrassiez de cette idée. Je n'ai aucun respect pour la façon dont ces gens emploient leur magie. »
Je me tus, puis demandai à brûle-pourpoint.
« Et maintenant,
dites-moi depuis combien de temps vous savez que vous avez le vif ?»
Je... Mais...
Il s'efforçait d'écarter de son esprit la menace que je venais de proférer. Je ne plaisantais pas, et il le savait. Il se ressaisit enfin.
Depuis 5 mois environ.
Depuis qu'on m'a offert la marguette. À l'instant où on m'a remis sa laisse, j'ai senti...
Vous avez senti un piège se refermer sur vous. Un piège que vous avez été trop stupide pour reconnaître.
On vous a donné la marguette parce que certains se sont aperçus que vous aviez le vif avant que vous le sachiez vous-même. Sans même en avoir conscience, vous avez donc manifesté des signes que vous possédiez cette magie. Des gens les ont remarqués, eux. Ils ont décidé de vous utiliser. Et ils vous ont fait cadeau d'un animal avec lequel vous ne manqueriez pas de vous lier. Cela ne se passe pas ainsi, normalement. Sachez-le. Les parents vifiés ne donnent pas un animal à leur enfant en lui disant « Tiens, ce sera ton compagnon pour la vie ». Non. D'habitude, on fournit à l'enfant un solide enseignement sur le vif et ses conséquences avant qu'il ne se lie. Après quoi, il se lance dans une sorte de quête pour trouver un animal dont la forme d'esprit corresponde à la sienne. Quand tout se déroule comme il faut, on aboutit à un équivalent du mariage. Dans votre cas, aucune de ces règles n'a été observée. Vous n'avez pas été instruit dans le vif par des gens qui se préoccupaient de votre bonheur. Un groupe de vifiers a repéré une ouverture et en a profité. La marguette ne vous a pas choisi, ce qui n'est déjà pas bon, mais pire encore, je ne crois pas non plus qu'elle ait eu son mot à dire quant à sa première compagne. La femme l'a arrachée à la tanière maternelle quand elle n'était encore qu'un margueton et s'est liée de force avec elle. La femme est morte par la suite. Mais son esprit a survécu en investissant la marguette. Le prince me regardait, les yeux noirs, écarquillés. Il les détourna soudain légèrement, et je sentis le vif à l'œuvre.
« Je ne vous crois pas. Elle dit qu'elle peut tout expliquer, que vous cherchez à m'embrouiller les idées. »
Les mots se bousculaient dans sa bouche, comme s'il les poussait en avant pour se cacher derrière eux. J'étudiais son visage. Ses traits fermés n'exprimaient que scepticisme et indécision. J'inspirais profondément afin de conserver mon calme.
Écoutez, mon garçon, je ne connais pas tous les détails de l'affaire, mais je puis émettre des hypothèses. Peut-être savait-elle qu'elle était en train de mourir, et c'est peut-être pourquoi elle a choisi une créature sans défense pour imposer son lien. Quand une union est déséquilibrée, comme celle-là devait l'être, le membre le plus fort peut dominer le plus faible. C'était le cas. Et elle pouvait posséder le corps du marguéton, quand bon lui semblait. Quand elle est morte, au lieu de s'éteindre avec son propre organisme, elle a transvasé son esprit dans celui de la marguette. J'interrompis ma marche et j'attendis que Devoir croise mon regard. « Vous êtes le suivant, » dis-je posément.
« Vous êtes fou, elle-même !»
Je secouai la tête. Je perçois une grande ambition en elle. Elle veut retrouver une apparence humaine. Elle ne souhaite pas rester une marguette, ni surtout mourir quand les jours de l'animal seront révolus. Il lui faut quelqu'un qui possède le vif, mais qui en même temps ignore tout du vif. Et pourquoi pas quelqu'un de bien placé? Pourquoi pas un prince? L'expression de Devoir refléta le conflit d'émotions qui faisait rage en lui. Une partie de lui savait que je disais la vérité, mais comme il se sentait humilié de s'être laissé abuser, il s'efforçait désespérément de ne pas me croire. Je tentais d'adoucir son sentiment de ridicule. À mon avis, elle a jeté son dévolu sur vous sans que vous ayez davantage le choix en la matière que la marguette. C'est à la fusion de la femme et de l'animal que vous êtes liés, pas à l'animal lui-même. Et... elle ne l'a pas fait par amour pour vous, pas plus qu'elle n'éprouvait d'affection pour la marguette. Quelque part, quelqu'un a conçu un plan extrêmement minutieux et vous n'êtes qu'un instrument dans sa réalisation. Un instrument d'épis.
« Je ne vous crois pas !»
cria-t-il.
« Vous n'êtes qu'un menteur !»
Sur ces derniers mots, sa voix se brisa. Ses épaules montèrent et descendirent, alors qu'il inspirait profondément, et j'eus l'impression de sentir mon ordre d'art restreindre son envie de me sauter à la gorge. Je gardai un silence prudent pendant quelques minutes, puis, quand je jugeai qu'il avait repris son sang-froid, je dis calmement. « Vous m'avez traité de bâtard, de voleur, et à l'instant, de menteur. Un prince doit faire plus attention aux invectives qu'il distribue, sauf s'il croit que son titre suffit à le protéger. Voici donc une insulte et un avertissement à la fois. Abritez-vous encore derrière votre statut de prince, alors que vous me donnez des noms d'oiseaux, et je vous traiterai, moi, de lâche. La prochaine fois que vous m'offenserez, votre sang royal n'arrêtera pas mon poing. » Et je soutins son regard jusqu'à ce qu'il détourne les yeux, comme un louveteau soumis par un adulte. Je baissai la voix afin de l'obliger à m'écouter attentivement pour m'entendre. « Vous n'êtes pas stupide de voir. Vous savez que je ne mens pas. Elle est morte, et on se sert de vous. Vous voudriez que ce ne soit pas vrai? Mais ce n'est pas la même chose que ne pas me croire. » Vous allez sans doute entretenir l'espoir qu'un événement se produira qui démontrera mon erreur, mais rien de ce genre n'arrivera. Je repris mon souffle. La seule consolation que je puis vous offrir aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas vraiment responsable. Il aurait fallu vous protéger d'une telle mésaventure. Il aurait fallu vous enseigner le lignage dès votre enfance. Il m'était impossible de lui avouer, pas plus qu'à moi-même d'ailleurs, que c'est moi qui aurait dû m'en charger. Moi, qui lui avais fait connaître le vif et son univers par le biais de rêves d'art, alors qu'il n'avait que 4 ans. Nous marchâmes longtemps sans rien dire. Je ne quittais pas des yeux la branche décorée d'algues. Une fois que j'aurais traversé le pilier, j'ignorais combien de temps je resterais absent. Le prince saurait-il subvenir à ses propres besoins? Les trésors de la falaise me troublaient et m'inquiétaient. De telles richesses devaient bien appartenir à quelqu'un, et ce quelqu'un risquait de ne pas apprécier la présence d'un intrus sur sa plage. Pourtant, je ne pouvais emmener de voir avec moi. Il ne ferait que m'encombrer. En outre, rester seul quelque temps et s'occuper de sa propre survie lui ferait peut-être du bien. Et si je mourais en tentant de sauver le fou et œil de nuit? Eh bien, au moins l'épée ne remettrait pas la main sur le prince. Les dents serrées, je continuai d'avancer en gardant pour moi mes sinistres réflexions. Et nous avions presque atteint la branche qui me servait de repère, quand Devoir dit d'une voix très basse. « Vous avez déclaré que mon père vous avait enseigné l'art. Vous a-t-il appris ?» Il trébucha. Alors qu'il tombait à plat ventre, le bout de son pied délogea du sable une chaîne d'argent. Il s'assit en jurant, puis tendit la main pour dégager sa botte, et je restai bouche bée, devant l'objet qu'il récupéra. C'était un fil épais dont chaque tauron de métal avait la finesse d'un crin de cheval. La longueur d'un collier s'ennichait déjà au creux de sa main quand il donna une dernière secousse pour terminer de l'extraire du sable. Et c'est alors qu'une figurine apparut soudain. Accrochée au fil comme une amulette, elle avait la taille du petit doigt de Devoir, et elle était émaillée de couleurs vives. Elle représentait une femme. Nous observâmes son visage altier. L'artiste lui avait donné des yeux noirs et avait laissé le métal or sombre de la statuette luire dans son teint. Ses cheveux peints en noir étaient couronnés d'une sorte de tiare bleue. Son vêtement drapé dénudait un de ses seins et laissait apparaître 2 pieds nus. « Elle est magnifique, » dis-je. Devoir ne répondit pas. Presque hypnotisé, il retourna la figurine pour suivre du doigt sa chevelure qui tombait dans son dos. « J'ignore quel est ce matériau. Il ne pèse quasiment rien. » Nous levâmes la tête en même temps. Ce fut peut-être notre vif qui nous avertit de la présence d'un être vivant, mais je ne le crois pas. J'avais capté une bouffée de pestilence indescriptible. Pourtant, alors que je me tournais à la recherche de la source de cette puanteur, je me sentis presque convaincu que je respirais un parfum suave. Il y a des expériences qui ne s'effacent jamais de la mémoire, et l'infiltration insidieuse d'un autre esprit dans le sien en est une. Un spasme de terreur me convulsa, et je dressai brutalement mes murailles d'art par un réflexe que je pensais oublier. Du coup, je perçus à nouveau les immondes remugles dans toute leur force, alors que je découvrais derrière moi une créature de cauchemar. Elle était aussi grande que moi, du moins en ce qui concernait la partie de son corps qu'elle tenait dressée. Je n'arrivais pas à savoir si elle m'évoquait un reptile ou un mammifère marin. Ses yeux plats de carrelet placés sur le devant de sa tête paraissaient bizarrement orientés, et son crâne semblait excessivement gros, comme tumescent. Alors qu'elle nous regardait fixement, sa mâchoire inférieure s'ouvrit comme une trappe, révélant une gueule capable d'engloutir un lapin entier et une langue rigide en pointa brièvement. Elle rentra brusquement et la bouche se referma avec un claquement sec. Je constatai avec épouvante que le prince, cloué sur place, souriait à la créature d'un air de béatitude imbécile. Il fit un pas trébuchant vers elle. Je l'agrippai par l'épaule et m'efforçai d'éveiller l'ordre d'art que je lui avais imposé tout en conservant mes murailles intactes. « Venez avec moi, » lui dis-je à mi-voix mais avec fermeté. Je le tirai en arrière, et bien qu'il ne m'obéît pas activement, au moins il ne me résista pas. Le monstre se dressa davantage pour nous dominer. Des poches disposées de part et d'autre de son cou s'agitèrent comme des soufflets, alors qu'il levait ses membres semblables à des nageoires, et il ouvrit tout à coup de grandes et larges mains palmées, terminées par des griffes aussi longues que des épines de vive. Alors il parla, dans un mélange de sifflements et d'éructations, et sous le choc, j'eus l'impression de recevoir une grêle de pierre.
« Vous n'êtes pas venu par le chemin. Comment êtes-vous venu ?»
Parrain, j'interrompis le prince en le secouant rudement.
« Silence !»
Je reculai, entraînant le garçon avec moi, mais la créature nous suivait avec force contorsion de son corps difforme. D'où sortait-elle ? Je jetai des regards affolés autour de moi, craignant d'apercevoir d'autres de ses congénères, mais elle était seule. Elle se rua soudain en avant et s'interposa, énorme, entre le plateau de Jon et nous. Je réagis en me dirigeant à reculons vers la mer, ce qui répondait à mon désir de toute façon, car c'était là que se trouvait notre unique voie d'évasion, à ma connaissance. Je formai le vœu que la marée descendante découvrit le pilier d'art.
« Vous devez partir !»
éructa la créature.
« Tout ce que l'océan dépose sur la plage au trésor doit y rester. Lâchez ce que vous avez trouvé. »
Le prince ouvrit la main, et la figurine tomba. Mais le cordon se prit dans ses doigts à demi repliés, et la statuette y demeura suspendue comme une marionnette.
« Lâchez ça !»
répéta le monstre, d'un ton plus pressant. Je jugeais que l'heure n'était plus à la subtilité. Je tirai mon épée maladroitement, de la main gauche, pour conserver ma prise sur l'épaule du prince.
« N'avancez pas !»
dis-je menaçant. Mes bottes crissaient sur les rochers couverts de bernacles. Je risquai un coup d'œil derrière moi. J'aperçus les pierres noires et caries, mais elles dépassaient à peine le niveau de l'eau. La créature se méprit sur mon geste.
« Votre bateau vous a abandonné !» « Il n'y a que l'océan derrière vous. Lâchez cet objet !»
Elle s'exprimait avec un chuintement effrayant. Elle n'avait pas plus de lèvres qu'un lézard, mais sa gueule ouverte révélait quantité de dents acérées.
« Les trésors de cette plage ne sont pas destinés aux humains. » « Ce que la mer apporte ici est perdu pour l'humanité parce qu'elle n'en est pas digne. »
J'entendis des algues s'écraser sous nos pas. Le prince glissa et faillit tomber. Je le retins par l'épaule et l'aidai à se redresser. Nous reculâmes encore de trois enjambées et l'eau vint lécher nos bottes.
« Vous n'irez pas loin à la nage !»
nous prévint la créature.
« La mer gardera vos ossements !»
Je perçus comme un coup de vent lointain la bouffée d'angoisse qu'elle projeta sur nous. Le prince n'était pas mentalement protégé comme moi, et il poussa un cri d'épouvante.
« Je ne veux pas me noyer »
s'exclama-t-il.
« Non, par pitié, je ne veux pas me noyer !»
Il se tourna vers moi, les yeux agrandis d'effroi. Il ne me vint pas à l'idée de mépriser sa lâcheté apparente. Je savais trop bien l'effet que pouvait avoir la terreur imposée de l'extérieur sur un esprit sans défense. « Devoir, il faut me faire confiance. Faites-moi confiance. »«
Je ne peux pas !»
hurla-t-il, et je le savais sincère. Il était déchiré entre mon ordre d'art, qui l'obligeait à m'obéir, et les ondes de peur que la créature lançait sur lui. Je resserrai ma poigne sur son épaule et l'entraînai dans ma retraite. Nous avions de l'eau jusqu'aux genoux, et chaque vague nous faisait vaciller. En se contorsionnant, le monstre n'hésita pas à nous suivre. Il se sentait sûrement plus à l'aise dans l'eau que sur la terre ferme. Je risquai un nouveau coup d'œil derrière moi. Le pilier se dressait tout près. Mes pensées s'embrouillaient d'ailleurs légèrement, comme toujours lorsque je m'approchais de la pierre noire, et je songeais qu'il était étrange de chercher la désorientation dans l'espoir d'y trouver le salut.
« Donnez-moi l'objet !»
cria la créature d'un ton autoritaire. Des gouttelettes d'un vert inquiétant apparurent à la pointe de ses griffes qu'elle leva d'un air menaçant. D'un seul mouvement, je rengainai mon épée, passai mon bras autour de Devoir et me jetai en arrière dans la mer en l'entraînant avec moi. Le monstre plongea derrière nous et il me sembla voir dans son regard inhumain une brusque compréhension. Mais il était trop tard. À tâtons, je trouvai la surface inclinée du pilier renversé et il nous aspira sans que j'eusse le temps de prévenir le prince. Nous surgîmes sous un soleil d'après-midi presque chaud. Le prince glissa mollement entre mes doigts et s'effondra sur le pavé d'une rue, au milieu de la cataracte d'eau de mer qui était apparue avec nous. Je repris mon souffle et balayai les environs du regard. Ce n'était pas la bonne face. J'avais songé à cette éventualité, mais trop occupé à échapper à la créature, je n'avais pas eu le temps d'y réfléchir. Chaque face d'un pilier d'art portait une rune gravée qui indiquait sa destination. C'était un système merveilleux, à condition de savoir à quoi correspondaient ces signes. Avec un tressaillement d'effroi, je me rendis compte soudain du risque que j'avais couru. Et si le pilier d'arrivée s'était trouvé enseveli ou réduit en morceaux? Je n'osais pas imaginer notre sort. Tremblant de tous mes membres, j'observais le paysage inconnu. Nous étions arrivés dans les ruines battues par le vent d'une cité abandonnée des anciens. Elle me sembla vaguement familière et je me demandais s'il ne s'agissait pas de celle où j'avais été transporté autrefois. Toutefois, je n'avais pas de temps à perdre en exploration ni en spéculation. Tout était allé de travers. À l'origine, mon plan consistait à repartir par le pilier sans m'encombrer du prince, afin de me porter au secours de mes amis. Mais je ne pouvais pas davantage laisser Devoir seul et frapper des bêtudes dans cette ville déserte que le planter sur la plage hostile. Je devais l'emmener.
Il faut repartir dans l'autre sens, lui dis-je. Il faut regagner Serre par le chemin qui nous a menés ici.
C'était affreux.
Sa voix tremblait, et mon intuition m'apprit qu'il ne parlait pas de la créature. Passer par un pilier était une expérience éprouvante pour un esprit non formé. Royal s'était servi allègrement de ce système pour transporter ses jeunes artiseurs, sans se soucier du nombre d'entre eux qui y perdaient la raison. Je n'avais nulle envie de traiter mon prince avec aussi peu d'égard. Malheureusement, je n'avais pas le choix, et le temps me faisait défaut.
Je sais, répondis-je avec douceur, mais il faut retraverser tout de suite, avant que la marée remonte.
Il leva vers moi un regard empreint d'incompréhension. J'essayais de peser le pour et le contre. Si je préservais sa santé mentale, la femme risquait d'en apprendre long par son biais. Finalement, je chassais cette préoccupation de mon esprit. Il fallait qu'il comprenne ce qui lui arrivait, du moins dans une certaine mesure, sans quoi je sortirais du pilier accompagné d'un légume.
Nous devons retourner au pilier près de la plage, car une de ses faces nous ramènera en Serre. Il faut découvrir laquelle.
Le garçon eut un haut-le-cœur, puis il s'accroupit sur le pavé, les mains sur les tempes.
« Je ne crois pas que j'en serais capable, » dit-il d'une voix mourante.
Mon cœur se serra. « Perdre du temps n'arrangera rien, » répondis-je. « Je vous protégerai du mieux possible, mais il faut partir tout de suite, mon prince. »
« Mais la créature nous attend peut-être »
s'écria-t-il, éperdu. Toutefois, je pense qu'il redoutait davantage le passage dans le pilier que le monstre. Je me baissai, le pris dans mes bras, et malgré ses efforts violents pour se dégager, je l'entraînai dans la colonne de pierre. Jamais je n'avais effectué de traversée à intervalles si proches, et la brutale sensation de chaleur me prit par surprise. Comme nous émergions du pilier, j'inspirai accidentellement de l'eau par le nez. Elle était chaude. Je me dressai en tenant la tête de devoir au-dessus des vagues. Sous l'effet de l'élévation de température de la colonne de pierre, l'eau bouillait à son contact, et le prince avait eu raison. Comme je soulevais son corps inerte en m'ébrouant, j'entendis des grognements étonnés en provenance de la plage. Ce n'était plus une seule, mais quatre créatures qui se trouvaient là. À peine nous eurent-elles aperçu qu'elles foncèrent sur nous. Je n'avais plus le temps de réfléchir, ni d'explorer, ni de choisir. Entre mes bras, le prince restait inconscient, bras et jambes ballants. Je le serrai contre moi et pris le risque d'abaisser mes murailles d'art pour tenter de protéger son esprit. Alors qu'une vague me jetait à genoux, je plaquai une main sur la surface fumante du pilier qui m'aspira aussitôt. Cette fois, le passage me parut insupportable. Je sentis une étrange odeur, curieusement familière, mais répugnante. « Devoir, prince Devoir, héritier du trône loin voyant, fils de Ketriken !» J'enveloppai son esprit qui partait en lambeaux dans le mien et l'appelai par tous les noms qui me venaient à l'idée. Enfin, il me répondit. « Je vous connais. » Ce fut tout ce que je captai de lui, mais après cela, il s'accrocha à lui-même et à moi. Une bizarre passivité imprégnait notre lien. Et quand nous émergeâmes finalement, dans un flot d'eau tiède sur une herbe verte, sous un ciel aux nuages bas, je me demandais si l'esprit du prince avait survécu à notre évasion de la plage au trésor.